RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue sur RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, toujours comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. De la supériorité des femmes dans l'exercice du pouvoir, les leçons de l'histoire, tel sera le thème ambitieux de cette édition des Racines du Présent, un thème qui s'impose après le décès de la reine Elisabeth. En effet, aujourd'hui, du moins en France, vous le savez, une grande partie de ceux qui nous gouvernent à Matignon, au Palais Bourbon, sont des femmes. Le monde médical, la magistrature, l'enseignement sont désormais en France l'apanage des femmes. On le sait, cette évolution salutaire est récente. Rappelons qu'en France, en raison de la loi Salique, les femmes ont été écartées du trône sous l'Ancien Régime, avant que la privation du suffrage universel ne les marginalise, de la Révolution jusqu'à la Libération. Pour autant, des dirigeantes d'exception n'ont cessé d'enrichir le riche livre d'heures de notre histoire, française et mondiale, de l'Antiquité à nos jours. La liste en est longue et elle est reprise par un nouveau livre intitulé « Femmes d'État, l'art du pouvoir ». C'est publié chez Perrin et nous sommes en compagnie de deux de ses auteurs. C'est sous la direction de Anne Fulda. Alors, la liste de ces femmes d'État est longue. On peut rappeler Angela Merkel, Elisabeth II, Aliénor d'Aquitaine, Isabelle la Catholique, Catherine de Médicis, Christine de Suède, Anne d'Autriche, Catherine II, Marie-Thérèse d'Autriche, la reine Victoria, l'impératrice de Chine Sissi, Indira Gandhi, Aung San Suu Kyi, Golda Meir, Margaret Thatcher, Ellen Johnson Sirleaf au Liberia. Voilà, cet ouvrage vient mettre à mal le mythe d'une supposée prédisposition des hommes dans la gestion des affaires publiques. On va voir ce qu'il en est. Avec nos trois invités, d'une part Emmanuel Giuliani, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez dirigé pendant de longues années le service culture de La Croix. Vous êtes aujourd'hui journaliste à ce service culture et vous nous apporterez votre regard. Face à vous, deux auteurs qui ont participé à ce livre, donc publié chez Perrin. Robert Solé, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous nous parlerez de Cléopâtre, mais aussi de Golda Meir et peut-être aussi d'autres femmes du Moyen-Orient, ce Moyen-Orient que vous connaissez bien. Et puis Vincent Hugeux, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez signé un chapitre consacré à la présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, mais votre expérience notamment africaine vous permettra de nous parler de bien d'autres destins. Je rappelle que vous avez publié aux éditions Perrin un livre intitulé « Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames ». C'était en 2016. Voilà, les femmes et l'exercice du pouvoir, les leçons de l'histoire, c'est le thème de cette édition des Racines du Présent.
Les Racines du Présent. Frédéric Mounier.
Alors, les femmes, le pouvoir, les leçons de l'histoire. Je voudrais commencer avec vous, avant de nous pencher sur quelques-unes des biographies féminines mises en scène dans ce livre, sur l'introduction signée Anne Fulda, qui nous explique que les femmes n'ont pas vraiment désiré ni fantasmé le pouvoir, qu'elles ne connaissent pas de jouissance narcissique, ni de dérive courtisane, ni d'esprit de conquête. Alors, de conquête. Alors, je m'adresse aux deux hommes qui sont sur ce plateau. Vincent Hugeux, vous avez sillonné l'Afrique, vous avez parcouru l'Afrique, vous avez observé les hommes et les femmes de pouvoir. Est-ce que vous partagez ce diagnostic?
J'ai également couvert de très nombreux conflits armés, non seulement sur le continent africain, mais au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Europe. Et au risque du paradoxe, je ne partage pas ce postulat. Pour moi, il relève d'une forme d'essentialisme qui voudrait qu'il y ait d'un côté la femme par nature bienveillante, pleine de mansuétude et qui effleurerait de sa douceur comme une reine thaumaturge les blessures du monde, et d'autre l'homme qui, par essence, lui, serait brutal, avide de pouvoir. Alors, certes, la longue liste des tyrans qu'a porté cette pauvre planète depuis la création du monde est essentiellement masculine. Et de cela, évidemment, on ne peut pas douter. J'ai vu à l'œuvre partout la brutalité des hommes. Mais j'attire votre attention sur le fait que l'hubris, l'ego, ne sont pas l'apanage de la masculinité. Et d'ailleurs, ce qui est assez étrange, c'est que dans cet ouvrage, la plupart des personnages féminins mis en scène, d'une certaine manière, invalident la thèse de départ.
C'est-à-dire que je pense à Cléopâtre,
mais Robert en parlera bien mieux que moi. Mais si on reprend Catherine II, si on prend Indira Gandhi, même Margaret Thatcher, et la défunte reine Elisabeth II, elle-même, à l'époque de l'épisode Diana, eh bien, l'épouse morganatique du futur roi Charles III, en quelque sorte, elle a fait preuve d'une cruauté abyssale. Mmh. Donc, si vous voulez, bien sûr, la performance des hommes en matière de brutalité, de violence, est incontestable. Mais j'observe aussi, je pense toujours que la psychanalyse est plus opérationnelle en termes de pouvoir que la science politique.
Allons-y.
Et donc, il m'apparaît également, et ça, c'est ce que j'ai cueilli au fil de la couverture de tous ces conflits de nature milicienne, puisque les guerres conventionnelles ont quasiment disparu, jusqu'au grand retour de l'histoire grâce
en Ukraine.
À Saint-Vladimir Poutine. Oui. Les hommes font aussi la guerre pour les femmes, pour les conquérir ou pour les avilir, pour les séduire ou pour rassurer, réassurer une virilité incertaine ou défaillante. Donc de toute façon, je crois que le paysage est un peu plus complexe que cette vision essentialiste.
Donc non à l'essentialisme, Robert Solé, est-ce que vous partagez ce point de vue, vous qui avez observé le monde pendant longtemps ?
Grosso modo, simplement ce qui trouble un peu, c'est que certaines femmes... C'est moins vrai aujourd'hui, c'est moins vrai à l'époque moderne, bien entendu, n'avaient pas cherché le pouvoir. C'est pour ça, elles se sont retrouvées là. Mais se retrouvant au pouvoir, une Marie-Thérèse d'Autriche se comporte exactement...
Comme un homme
comme un homme violent. Même.
Comme un homme violent,
Je veux dire, c'est vraiment un chef d'État.
Oui.
C'est un cas, il faut dire. Mmh. C'est un cas, mais alors plus près de nous, évidemment, on a beaucoup d'exemples de Cléopâtre. On parlait de Cléopâtre.
Oui, on
Cléopâtre
va en parler tout à l'heure,
se comporte exactement comme ses prédécesseurs, comme un homme. Mmh. Fait assassiner ses frères l'un après l'autre, etc.
D'accord. Donc vous partagez ce point de vue. Il n'y a pas une essence du pouvoir féminin, une essence du pouvoir masculin. Vincent Hugues, une précision.
Ce qui est tout aussi vrai, pour être équanime, c'est que les femmes ont effectivement, vous l'avez rappelé en préambule, été reléguées à une dimension non pas d'actrice, mais de témoin passif et bienveillant. Et on sait très bien que dans la période moderne, vous avez rappelé que des femmes ont été ministres sous le Front populaire avant même que d'accéder au droit de vote.
Absolument.
Ce qui est une sorte d'ineptie historique. Et par ailleurs, elles ont été aussi très longtemps reléguées dans des fonctions qui renvoyaient à leur essence maternelle. Les portefeuilles qui leur étaient dévolus.
La famille, les affaires sociales.
La famille, les affaires sociales, l'éducation, la santé. Et ça s'est arrêté là très longtemps. Souvenez-vous du tollé assez roteur et pervers qu'avait suscité, par exemple, la promotion de Édith Cresson à Matignon.
Ça s'était très mal passé. Alors, Emmanuel Giuliani, que pensez-vous de cette affaire essentialiste ? Est-ce qu'il y a une façon féminine d'exercer le pouvoir, une façon masculine d'exercer le pouvoir, ou est-ce que c'est une réduction ?
Je pense également que c'est une réduction. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans l'histoire et encore aujourd'hui, les femmes ont plus de difficultés à accéder au pouvoir.
Voilà.
Et dans la grande liste des opprimés, que ce soit pour des raisons politiques, sociales, religieuses et autres, elles grossissent malheureusement souvent la liste des victimes, mais les enfants aussi et des hommes aussi. Donc c'est vrai que les femmes ayant eu plus de difficultés en général à accéder au pouvoir, que ce soit le pouvoir politique, mais aussi des postes importants, vous évoquiez la culture tout à l'heure dans le monde culturel et dans tout autre univers, il est vrai qu'on a tendance à les voir plutôt du côté de celles qui auraient les valeurs positives écrasée et qui, une fois au pouvoir, pourraient se souvenir de tout ce qu'elles ont subi et organiser un exercice du pouvoir qui se fonderait sur la lutte contre exactement toutes ces brutalités et ces violences. Mais ça voudrait dire que tous les élèves se souviendraient, quand ils choisissent la carrière d'enseignant, qu'il faut être de gentils professeurs et ne pas humilier leurs élèves. Et l'expérience nous montre bien que c'est pas parce qu'on a été victime que quand on a les moyens de ne plus l'être, on l'exerce avec la mansuétude, la bonté, la magnanimité. Je pense que le genre humain, homme et femme, est traversé de bonnes et de mauvaises choses, et que ce serait faire injure aux femmes de considérer qu'elles n'ont pas une égalité dans le bien comme dans le mal.
Dans le bien comme dans le mal. Vincent Hugues.
Cette réflexion m'inspire un très bref contrepoint. Balayons devant notre porte. Dans l'univers des médias, dans le monde de la politique, dans celui de l'entreprise, il est vrai que pour accéder aux fonctions suprêmes, la femme doit très souvent percer un plafond de verre, pour prendre un cliché, un stéréotype du moment. Mais le problème, c'est que quand le plafond de verre éclate, il y a des éclats qui sont très tranchants. Et on a vu, j'ai vécu cela dans ma carrière de journaliste, des femmes qui, parvenues au pouvoir, un peu mues par une sorte de revanchisme sur l'injustice, l'inéquité du sort qui a été leur pendant des décennies, faisaient preuve d'encore plus de brutalité dans la manière de gérer les hommes, alors les hommes au sens large du terme, femmes ou hommes. Et donc, d'une certaine manière, ça peut être aussi le sous-produit d'une très longue suggestion.
Voilà, d'une très longue relégation. Alors évidemment, on ne vous demandera pas de nom, naturellement, nous resterons très 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 sobres. Alors, je voudrais aborder maintenant peut-être ce qui a fait l'arrière-plan de l'actualité ces derniers temps. Le monde a été traversé d'émotions par le décès d'Elisabeth II. Alors, je vais vous ramener au 5 avril 2020, c'était au début du confinement. Et nous sommes sur France 24 et vous allez voir comment est-ce que la chaîne a rendu compte de ce fameux discours de la reine Elisabeth II qui s'est adressé à son peuple, peut-être différemment de ce que Boris Johnson avait fait, ou plutôt n'avait pas fait. On écoute cet extrait, nous sommes le 5 avril 2020.
Le ton grave, le visage solennel. Dans une allocution historique à la télévision, la reine Elisabeth II appelle à l'unité et au courage des Britanniques pour faire face au Covid-19.
Je tiens à remercier tous ceux qui sont sur le front dans les hôpitaux publics, ainsi que les travailleurs sociaux et tous ceux qui remplissent des rôles essentiels, qui continuent d'accomplir leurs tâches quotidiennes à l'extérieur du domicile pour nous soutenir tous. Je tiens également à remercier ceux d'entre vous qui restent à la maison, contribuant ainsi à protéger les plus vulnérables. Ensemble, nous combattons cette maladie et je peux vous assurer que si nous restons unis, nous la vaincrons.
Ce type d'intervention est particulièrement rare. C'est seulement la 5e fois depuis le début de son règne, il y a 68 ans, preuve de la gravité de la crise. Pour inciter à la résilience et au respect des règles de confinement, la reine fait allusion à la Seconde Guerre mondiale. Elle évoque sa première allocution en 1940.
Lorsque nous étions petites, depuis le château de Windsor, nous avions parlé à d'autres enfants qui avaient été évacués de chez eux et éloignés pour leur propre sécurité. Aujourd'hui, une fois encore, beaucoup ressentiront ce douloureux sentiment de séparation. Mais comme par le passé, nous savons qu'au fond, c'est la bonne chose à faire.
Voilà, nous étions le 5 avril 2020, nous étions sur France 24, donc, et nous écoutions Elisabeth II qui s'adressait à son peuple pendant que, nous l'avons appris plus tard, mais le Premier ministre Boris Johnson faisait la fête au 10 Downing Street et il a longuement hésité, lui, à proclamer les confinements. Alors, venons-en à cette figure un peu très très forte donc de Elisabeth II. On se souvient, Emmanuel Giuliani, de la série The Crown que nous avons tous regardé avec grand plaisir et qui rappelle un épisode peut-être méconnu pour nous Français en 1964, le désastre de Aberfan sous le Premier ministre Wilson, Harold Wilson, au Pays de Galles, voilà, où un terril s'était effondré. Et donc, on se souvient que la reine Elisabeth avait hésité à prendre la parole, avait hésité à se rendre sur place. Elle n'avait pas fait preuve de mansuétude, d'empathie avec son peuple. Et puis, Vincent Hugeux l'a rappelé aussi en septembre 1997. Il a fallu du temps pour convaincre la reine d'être aux côtés de son peuple dans ce deuil national. Quel regard vous portez avec le recul, Elisabeth Giuliani, sur la personne d'Elisabeth II, sa façon de vivre le pouvoir?
Oh, c'est très compliqué parce qu'on sait, on l'a suffisamment rappelé pour dire qu'elle avait eu un règne extrêmement long. Un règne dont on sait que ce n'est pas un pouvoir politique, c'est un pouvoir évidemment d'unité de la nation. Enfin, je ne vais pas répéter ce qu'on a tellement dit abondamment sur les antennes et sur les ondes tout récemment. Ce que je note, c'est que ces termes d'amour, de compassion, c'est ce qu'a employé son fils lors de son premier discours, en faisant un hommage ému à sa mère et en disant le même amour pour son peuple. Donc l'amour, le soin, le care, etc. ne sont pas là non plus l'apanage l'image
là non plus.
De la reine. On, oui. on voit que le roi veut reprendre cette terminologie. Après, tout ça est affaire, vous disiez, de mansuétude, mais aussi de clairvoyance. Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui est dans la représentation et dans l'exercice d'une forme de pouvoir, même si elle n'est pas efficiente comme peut l'être un chef d'État qui a les rênes politiques entre les mains, au cours de tout un règne, de ne pas sentir immédiatement l'air du temps et la réaction à avoir? Bon, c'est vrai. Après, on peut se souvenir aussi qu'après ce désastre au Pays de Galles, ça avait encouragé une politique d'image du côté de la famille royale, de faire venir la BBC dans la vie familiale. Alors, évidemment, avec tous les contrôles ad hoc, mais ça avait été aussi une étape qui avait fait dire « rendons plus humaine cette reine ». Donc, on retombe toujours sur les mêmes questions d'humanité et de rapport au pouvoir et qui si on les définit comme féminins, on tombe très très vite dans des clichés.
Et puis Robert Soley, il faut se souvenir aussi de cet affrontement qu'il y a eu entre ces deux femmes, la reine Elisabeth et Margaret Thatcher, qui ont été vraiment opposées dans leur façon de voir le monde et peut-être de comprendre leur peuple. Les affrontements n'ont pas lieu qu'entre mâles dominants, Robert Soley, non ?
Alors il y a eu en plus une différence sociale, je dirais. Margaret Thatcher, fille d'un épicier, finalement, était très marquée quand même par ça.
Par son origine.
Je pense
oui.
que ça a joué quand même dans la relation.
Elle n'était pas de la caste.
Relation.
Ouais.
Elle n'était pas de la caste.
Oui.
Ça a joué. Mais l'Angleterre, qui nous fascine en ce moment.
Peut-être un peu trop du reste.
Il y aurait un livre, au fond, à écrire sur les femmes d'État et en Angleterre, tout simplement.
Alors, racontez-nous.
Parce que quand,
si vous
écriviez
ce livre.
Raconter.
Oui.
Je veux dire, il y a des figures incroyables qui ont précédé Elisabeth II.
Elisabeth
II. Il y a eu Victoria et il y a eu Elisabeth Ier Tudor, qui était vraiment un chef d'État.
Oui.
Un chef d'État au XVIe siècle, qui a joué un rôle alors très important politique. Victoria a marqué son époque. On parle d'époque victorienne jusqu'à aujourd'hui.
Même si elle a régné moins longtemps qu'Elisabeth II.
Mais oui, mais quand même, elle a régné très longtemps, tout de même. Et très différemment. Très différemment, chacune selon son... On ne va pas entrer dans les détails. Et parallèlement à tout ça, vous avez trois premières ministres, quand même.
Ce qui est une exception britannique. On peut parler d'exception britannique.
En tout cas,
cette
c'est
présence
un cas
des femmes
tout
au pouvoir
à fait significatif et intéressant à étudier.
Vincent Hugeux.
Sur le... tête-à-tête apparemment courtois mais assez rugueux entre Elisabeth II et Margaret Thatcher, il y a un épisode absolument crucial et qui d'ailleurs est tout à l'honneur de la souveraine défunte. Eh bien, c'est le rapport à l'apartheid dans l'Afrique du Sud.
Oui.
Margaret Thatcher avait de coupables bienveillances pour le régime dit de développement séparé, qui est tout simplement un racisme d'État, alors que Elisabeth, qui très jeune, avant même d'accéder au trône à 24 ans, avait, lors d'un voyage en Afrique du Sud, en tant que princesse, prononcé un discours fondateur sur sa dévotion à la cause qui, un jour, et la tâche, serait la sienne. Mais ensuite, elle a toujours refusé, dès lors qu'elle avait coiffé la couronne, de se rendre en Afrique du Sud, malgré, non pas les objurgations, elle ne serait pas permis cela, mais malgré les suggestions répétées de Margaret Thatcher. Et là, elle est restée très ferme. Et j'ajoute que en 91, quand Mandela, fraîchement libéré, mais toujours pas président, assiste de loin à un sommet du Commonwealth à Harare, capitale du Zimbabwe, l'ancienne Rhodésie du Sud, eh bien c'est elle, Elisabeth II, qui bouscule le protocole pour qu'il puisse participer au banquet royal. Et ensuite, Mandela sera le seul homme, à ma connaissance, à l'appeler par son prénom et même par son diminutif, « My dear Lizzie ».
Oui. Voilà une belle histoire. Pour changer de registre, Emmanuel Giuliani, nous avons tous regardé donc non seulement la série The Crown, mais aussi la série Downton Abbey. Je sais que vous êtes passionné par cette série. Comment est-ce qu'on peut voir de l'intérieur la place des femmes dans cette société aristocratique britannique ?
On voit d'abord que elles ont un rôle qui nous ramène aussi à l'ancien régime français. On a connu l'importance d'une madame de Maintenon ou d'une madame de Pompadour, non seulement de manière amoureuse et passionnée auprès des souverains dont elles étaient les favorites, mais de manière aussi culturelle et politique. Combien d'œuvres d'art ont été commissionnées ou dédiées à la Pompadour ? C'est véritablement une des très très grandes mécènes, et si de tant d'opéras, de peinture et de littérature aussi ont pu fleurir à ce moment-là, c'est en grande partie grâce à elle. Donc tout ceci pour revenir à Downton Abbey et à la manière dont est vu, fantasmé de manière charmante, mais aussi là aussi assez cliché, cette aristocratie britannique sur le déclin d'ailleurs, hein, sur le déclin économique, politique et social, c'est montrer que oui, les femmes souvent mènent la danse en faisant croire aux hommes que c'est eux qui le font. Bon, ça fait partie aussi, voilà, de la de la manière dont on peut de façon ou plus plaisante ou plus critique voir le rôle des femmes qui tireraient les ficelles de marionnettes plus ou moins clairvoyantes, marionnettes masculines plus ou moins clairvoyantes, mais qui sont contentes d'être au premier rang. Voilà, ça existe, mais on pourrait, quand on lit les portraits de l'ouvrage auquel vous avez participé, on voit que l'inverse est très vrai aussi.
Les racines du présent. RCF.
Au micro, Frédéric Mounier. Dans cette édition des Racines du Présent, nous évoquons la singularité, plutôt que la supériorité, après vous avoir écouté autour de cette table, la singularité des femmes dans l'exercice du pouvoir à travers les leçons de l'histoire. Alors, nous avons avec nous deux auteurs qui ont participé à un livre qui vient de sortir, qui s'intitule « Femmes d'État, l'art du pouvoir », c'est chez Perrin. Je me tourne vers Robert Solé. Vous avez abordé dans ce livre la figure, alors là, on remonte dans le temps très très lointain, la figure de Cléopâtre. Alors, on sait que vous êtes un grand spécialiste de l'Égypte, que vous êtes passionné par la région du Moyen-Orient. Alors, rappelez-nous, comment est-ce que Cléopâtre a exercé le pouvoir? Dans quelles circonstances, Robert Solé?
Écoutez, Cléopâtre, c'est un mythe, c'est une légende, c'est un peu la superstar de l'Antiquité. Elle a fasciné les gens de son vivant, et elle les a fascinés après sa mort. Il faut voir tout ce qu'on a. Et en même temps, on ne sait pas très bien qui est Cléopâtre. Moi, elle m'échappe.
Ah oui.
Je vous dis.
Même vous qui avez travaillé sur la question.
Oui, on peut lire des tonnes de choses sur Cléopâtre. En réalité, elle nous échappe.
Pourquoi?
Alors, il y a toujours, on parle toujours du physique de Cléopâtre, bien sûr. Était-elle belle, pas belle? On n'en sait rien. On savait qu'elle avait un charme fou. On ne sait pas très bien si, en gouvernant, elle s'est vraiment distinguée de ses prédécesseurs. Au fond, elle a gouverné comme eux, d'une certaine façon, mais avec quelques inflexions tout de même. Vous savez qu'elle était à la tête de cet empire lagide.
Alors voilà, rappelez-nous le contexte.
Les successeurs. Alexandre s'empare de l'Égypte, chasse les Perses d'Égypte, s'empare de l'Égypte, les successeurs d'Alexandre vont former le royaume ptolémaïque, lagide, etc. Et Cléopâtre est la dernière souveraine de cet empire.
Nous sommes en 51 avant Jésus-Christ.
En 51
elle
avant
a 18
Jésus-Christ.
Ans.
Alors, elle hérite d'un royaume en très mauvais état, très très mauvais état, qui est un peu un protectorat de Rome.
De Rome,
d'une certaine façon. Elle ne peut pas gouverner seule, elle est obligée, elle est associée à son jeune frère. Une femme ne peut pas gouverner seule. Très vite, il y a un conflit. Et très vite, cette femme va... En fait, on ne peut pas raconter toute l'histoire, parce que c'est plein de rebondissements.
Elle se tourne vers Rome.
Elle se tourne vers Rome.
Ou Rome se tourne vers elle.
En fait, au cours de sa vie, elle va séduire les deux Romains les plus puissants de l'époque, qui sont successivement César et Antoine. Et elle va se suicider pour échapper au troisième, qui est Octave.
Qui est le petit neveu d'Antoine.
Et on va même la soupçonner. Alors, quand je dis qu'on connaît mal Cléopâtre, c'est que ceux qui ont écrit sur Cléopâtre, les auteurs de l'Antiquité, sont surtout ses détracteurs, finalement. Mmh. On a essayé de la présenter justement uniquement comme une séductrice.
Une séductrice.
La putain, au fond, de celle qui a séduit. Alors, pourquoi a-t-elle séduit César puis Antoine? C'est pas une simple séduction, c'est politique. C'est politique des deux côtés. Mmh. D'ailleurs, César a intérêt. César vient occuper l'Égypte, au fond.
Oui.
Il vient occuper l'Égypte. Et plutôt que d'occuper l'Égypte et de mettre un homme à lui qui risque de se retourner contre Rome, il préfère confier le pouvoir à Cléopâtre.
Mmh.
À Cléopâtre. Et Cléopâtre, pour protéger son empire qui est en déclin, se tournent vers César. Alors, ils sont amants. Et en même temps, c'est une amitié, je dirais, politique.
Et Cléopâtre va porter l'enfant de César.
Voilà.
Césarion.
Et il va se passer un peu la même chose après la mort de César avec Antoine. Mmh. Et donc, voilà, si vous voulez. Alors,
on a l'impression,
elle a quand même une qualité, moi je la qualifie un petit peu de première communicante de l'histoire,
oui,
finalement.
En vous lisant, on voit que vous la proclamez première communicante de l'histoire, mais aussi vous dites qu'elle est un peu sorcière, non?
Est-ce bon, qu'elle a elle joue de ses charmes, mais simplement les récits qu'on a sont tellement contradictoires, les détails ont été tellement inventés, son suicide lui-même a été tellement mis en scène, etc., que c'est difficile. Non, pour moi, il y a deux grands communicants dans l'Antiquité. Le premier, qui est antérieur à Cléopâtre, c'est Ramsès II.
Oui. Mmh.
Ramsès II, qui d'une demi-défaite, fait une épopée, une immense victoire, c'est Kadesh. Mmh. Et la première femme à vraiment utiliser la communication et utiliser son charme, c'est Cléopâtre. Mmh. Mais elle ne fait pas que ça, encore une fois. Ouais. On ne peut pas la réduire à une séductrice, comme on l'a fait dans les films, dans plein de choses.
Alors, on va faire, si vous voulez bien, un grand saut dans l'histoire autour de ce territoire du Moyen-Orient que vous connaissez bien, Robert Solé, après avoir évoqué Cléopâtre. On va évoquer une autre grande femme, une femme israélienne qui a été premier ministre de son pays. Je veux parler de Golda Meir. Golda Meir, on va écouter un extrait du journal télévisé du 12 avril 1974 qui nous explique pourquoi et comment Golda Meir a été amenée à démissionner. Et Robert Solé, vous allez nous rappeler ensuite quel a été ce parcours peut-être hors du commun de Golda Meir.
Ben-Gourion dit un jour de Golda Meir, c'est le seul homme de mon cabinet. Ténacité et fermeté sont en effet les traits essentiels du caractère de l'ex-premier ministre israélien. Un caractère à jamais marqué par les programmes de la Russie tsariste. Née en 1898 à Kiev, en Ukraine, la petite Golda prend le chemin de l'exil à l'âge de 8 ans, avec toute sa famille. Direction les États-Unis. Mais la distance ne saura rien effacer. Un caractère forgé par la lutte politique où elle s'est lancée dès l'âge de 17 ans. Elle consacrera toute sa vie au sionisme et à Israël, au risque d'ailleurs de sacrifier sa vie privée. Elle part pour la Palestine en 1921, malgré les réticences de son mari. Elle fonde alors les premiers kibboutz et travaille 3 ans à l'assèchement des marais de Basse-Galilée. Militante, puis responsable du Parti socialiste, elle est avec Ben-Gourion l'une des têtes politiques d'Israël à l'heure de l'indépendance. Elle a même risqué sa vie pendant la guerre, traversant les lignes ennemies pour aller négocier avec les chefs arabes. La carrière de Golda Meir se confond avec l'histoire d'Israël. En 26 ans, elle ne quitte l'arène politique que quelques mois, en 1968. Ambassadeur à Moscou, ministre du Travail puis des Affaires étrangères, secrétaire général du Parti socialiste et enfin Premier ministre depuis mars 1969. Deux impératifs guident son action. À l'intérieur, souder l'unité nationale entre faucons et colombes, laïcs et religieux. À l'extérieur, ne rien céder aux pays arabes. Avant la guerre d'octobre, elle rejette la concertation à 4, propose des négociations directes avec les pays arabes, exige des frontières sûres et reconnues et surtout donne le feu vert à Moshe Dayan pour coloniser les territoires occupés. Le conflit d'octobre ruine ses espoirs. Son intransigeance n'a pas évité la guerre et pour la première fois, les pertes sont lourdes. À l'intérieur, la querelle entre partisans et adversaires du général Dayan divise profondément l'opinion, la majorité gouvernementale et même le cabinet. C'est donc une femme usée par l'action, brisée par l'échec, qui a quitté le pouvoir.
Voilà, nous sommes le 12 avril 1974. Golda Meir, premier ministre d'Israël, vient de démissionner. Le journal télévisé nous retrace sa biographie. Robert Solé, vous qui connaissez très très bien cette région, Golda Meir, dont on a entendu Ben-Gourion qui disait « c'est le seul homme de mon cabinet », était-elle une femme hors du commun au Moyen-Orient, Robert Solé?
En tout cas, on l'a surnommée bien avant Margaret Thatcher, « dame de fer ».
Oui.
C'était la dame de fer. Elle a incarné vraiment le sionisme au féminin. Et il y a très peu de femmes, finalement, bizarrement, en Israël, ce pays si évolué, cette société si évoluée, on n'a pas de femmes d'État.
Et on connaît la place de la mère juive dans l'imaginaire culturel.
Oui, elle sera la grand-mère
voilà,
en plus.
C'est ça.
Alors, évidemment, elle va grimper. Elle est dans le sillage de Ben-Gourion, quand même, n'est-ce pas ? Et elle va atteindre le poste, peu à peu, le poste de Premier ministre. Et son drame, c'est évidemment la guerre de 1973, quand Sadat,
la guerre du Kippour,
réussit à tromper tout le monde, a trompé les Israéliens, ses troupes réussissent, ses commandos à franchir le canal de Suez, et ce n'est que de justesse qu'on rétablit la situation. C'est Ariel Sharon qui va rétablir la situation, mais la classe politique israélienne, et notamment Golda, sont très affectés par cette semi-échec ou semi-victoire, enfin, de la guerre de 73. Ce qui est très frappant, ensuite, on saute quelques années, si vous voulez, la dernière apparition publique de Golda, ça sera avec Sadat. Sadat fait son fameux voyage à Jérusalem en novembre 77, à la surprise. Alors, c'est comme l'homme qui débarque sur la Lune.
À ce point, oui.
Golda est aux États-Unis à ce moment-là. Elle revient d'Ardar pour assister à cette arrivée spectaculaire. Et Sadat descend de l'avion, et un des premiers gestes qu'il fera sera de prendre Golda dans ses bras.
C'est un geste impensable.
Impensable. Oui. Pour les Arabes, c'est un scandale absolu.
Oui, il faut rappeler que Golda Meir avait toujours été extrêmement dur avec ses voisins arabes.
Et puis, au cours de ce fameux voyage, après le discours de Sadat à la Knesset, on va assister à un entretien en tête-à-tête où le grand-père, qui vient d'avoir une petite fille, est félicité par la grand-mère d'Israël, au fond, qui est Golda. Et c'est tout. C'est la dernière image de cette femme, cette combattante du sionisme.
Et quelle trace a-t-elle laissée dans l'inconscient collectif d'Israël
aujourd'hui ? On pourrait imaginer d'autres femmes, comme je disais, qui prennent, mais je ne les vois pas. Où sont-elles ?
Vincent Hugeux, où sont-elles ?
Moi, ce qui me frappe dans la trajectoire de Golda Meir, c'est qu'à l'évidence, sa volonté, on parlait de dame de fer à l'instant, a été forgée au feu d'un combat existentiel.
Oui, c'est-à-dire
ce qui explique, c'est-à-dire que tel succès militaire, tel moment de fermeté d'âme politique dépendait tout simplement de la survie de l'État d'Israël naissant. Et j'en veux pour preuve ce que m'avait raconté un ancien officier du Mossad lorsque je couvrais pour l'Express le conflit israélo-palestinien. Alors, l'anecdote est-elle authentique, apocryphe ? Peut-être Robert pourra nous le dire. Mais elle avait, semble-t-il, dans son bureau, tout aussi austère que sa cuisine où elle recevait parfois ses ministres, c'est une sorte d'esthétique de l'austérité, de la sobriété, elle avait une liste de tous les responsables réels ou présumés de la tragédie terroriste de Munich. Et elle disait en permanence que jusqu'au jour où le dernier nom de cette liste serait anéanti, liquidé par les services israéliens, elle ne trouverait pas la paix de l'âme. Et je crois que ça dit beaucoup aussi de cette fermeté, parce que c'est à l'aune, encore une fois, de ce qu'était ce combat de nature existentielle.
Alors, Robert Solé, est-ce que vous avez remarqué, observé d'autres femmes au Moyen-Orient qui méritent d'être mises en évidence, des femmes qui sortent du lot, des femmes... On dit que le monde arabe est un monde qui est assez exclusivement masculin. Quel regard
portez-vous,
Robert Solé ?
Écoutez, moi, j'ai beaucoup travaillé sur mon pays d'origine, qui est l'Égypte, qui est le grand pays du monde arabe, quand même, le plus peuplé, etc. Le pays central, pendant longtemps. Et j'ai écrit un livre, il y a quelques années, sur l'histoire moderne de l'Égypte, à travers 20 personnages. J'ai cherché des femmes.
Oui.
Et j'en ai trouvé que deux. Et les deux, aucune des deux n'a exercé de fonction étatique.
J'imagine qu'il y a la chanteuse.
Alors, il y a la chanteuse Oumme Kalsoum. Oui. Et il y a quelqu'un d'autre qu'on connaît bien dans le monde arabe, qui est Hoda Shaharawi, qui est la première féministe du monde arabe, qui s'est dévoilée de manière spectaculaire dans les années 20, qui a été vraiment une pionnière du féminisme. Mais... j'aurais pu ajouter une troisième personne.
Allez-y.
Qui est la femme de Sadat.
Oui,
la femme de Sadat, Jihan Sadat. Mais Jihan Sadat n'a jamais exercé de fonction. Elle a créé dans le monde arabe le poste, si je puis dire, la fonction de First Lady. Que d'ailleurs Suzanne Moubarak, dont on ne parle pas, a prolongé exactement de la même façon. C'est-à-dire une femme moderne, tournée vers l'Occident, autoritaire, jouant le rôle de ministre de la culture, d'une certaine façon, mais ce ne sont pas des femmes qui sont au pouvoir.
Mmh. Et parfois, on leur prête, et à bon droit, une influence néfaste. Je pense à l'épouse de Ben Ali, le Tunisien, qui était une héritière de la grande dynastie Trabelsi, et que, je me souviens, pour être allé en Tunisie à l'époque du supposé printemps arabe, qui apparaissait comme l'incarnation et la cristallisation de toute le dégoût que pouvait susciter la famille royale, même si c'était en l'occurrence une image, et elle passait pour cupide, avide, pour être aussi le mauvais génie d'un époux réputé malléable.
Une sorcière, quoi.
Ce qui est frappant dans ce monde arabe, si on le prend dans sa totalité, si vous voulez, c'est que les femmes jouent un rôle, évidemment, très important dans la vie quotidienne, mais elles jouent un rôle quand il y a des événements importants. On a parlé de ce qu'on a appelé le printemps arabe. On a beaucoup parlé de ces femmes qui étaient dans le premier rang, y compris d'ailleurs dans les suites du printemps arabe, ce qui s'est passé au Liban, ce qui s'est passé en effet au Soudan.
Oui.
Mais ensuite, où sont-elles? Elles disparaissent. Elles sont dans la rue, elles sont courageuses, elles sont au premier rang et tout. Et puis c'est fini.
C'est une question que vous posez, mais vous n'avez pas la réponse.
Je n'ai pas la réponse et je suis stupéfait de voir que ce monde arabe est en retard sur l'Amérique latine, de ce point de vue, sur l'Asie. Il n'y a pas... Prenez le Maghreb. Vous avez trois pays, vous avez des femmes formidables, des femmes très émancipées, très évoluées, très courageuses,
Citez-les,
etc.
Citez ces trois pays.
Le Maghreb, je parlais de l'Algérie, le Maroc, Tunisie.
Oui.
Bon, où sont-elles?
Alors,
en Tunisie encore, bon, il y a eu... mais elles ne sont pas, à la tête de l'État.
Alors, comment expliquer?
Moi, je vais prendre un exemple volontairement en dehors de la sphère arabe, mais dans l'univers musulman, qui est l'Iran, qui est un pays où j'ai eu le privilège de séjourner souvent. Vous avez des débats théologiques aujourd'hui pour savoir si la femme qui peut accéder en Iran à la fonction de députée, en pourcentage, il y a plus de députés femmes en Iran qu'en France.
Bon. Encore aujourd'hui, il faut rappeler.
Oui. Vous pouvez accéder à des fonctions éminentes, ministère de l'environnement, par exemple, de la famille, etc. Mais le grand débat, c'est est-ce que, en termes, je dirais presque coraniques, une femme peut être considérée comme réjal, c'est-à-dire est-ce que c'est un être humain ou est-ce que c'est l'homme masculin? Et on vous explique que, par exemple, être magistrate, pourquoi pas, avocate, oui, mais présider un tribunal, non, parce que l'émotivité de la femme, évidemment, leurs vieux stéréotypes liés aux impératifs du cycle menstruel, etc., l'empêcherait d'avoir le discernement nécessaire à l'instant de décider. C'est pour ça que c'est un grand débat entre les anciens et les modernes, pour peu qu'on en trouve, pour savoir si, par exemple, une femme peut accéder à la dignité de président, dont on n'oubliera jamais qu'en Iran, il n'est pas le premier personnage de l'État, puisqu'il est soumis à l'autorité du guide de la révolution. Mais voilà un, je dirais, une
paradoxe,
donnée culturelle et religieuse qui pourrait être une amorce d'explication à la difficulté qu'il y a à traduire le rôle éminent que jouent les femmes dans les combats sociaux et politiques en poste et en position de pouvoir.
Alors là, nous sommes dans le monde chiite.
Oui.
Est-ce que ce type de débat peut avoir lieu également dans le monde sunnite, Robert Solé?
On n'a même pas besoin de débat.
Non.
On n'a même pas besoin de débat, c'est un fait. Personne n'a l'air de s'en étonner. C'est ça qui est stupéfiant, si vous voulez. Il y a un retard formidable, là.
Oui, ça fait deux fois que vous utilisez le mot retard. C'est un mot un peu,
retard.
Disons,
c'est un retard,
essentialiste,
parce que je pense qu'il y a un sens
quelque chose, là.
Oui, mais il y a un sens de l'histoire, là. Il y a une... On l'a senti au moment de... au moment de 2011, n'est-ce pas? Ce qu'on a appelé le printemps arabe, on a senti. On a dit, c'est pas possible, ces pays-là, qui sont ouverts sur le monde extérieur comme ils l'ont jamais été... Ils ne peuvent pas ne pas suivre.
Mais alors quand même, essayons d'approfondir. Que se passe-t-il? Nous avons, j'imagine, des générations de jeunes femmes dans un grand nombre de pays arabes qui sont éduquées, qui sont allées à l'université, qui sont diplômées, qui ont voyagé. Et comment expliquer cette situation de stagnation que vous évoquez l'un et l'autre, Vincent Hugeux, par exemple?
Juste là encore un petit élément de réflexion. Ça me vient d'un long entretien que j'avais eu avec l'iranienne Shirin Ebadi, prix Nobel, voilà quelques années. Et elle répétait, urbi et orbi, que le véritable ennemi de la femme dans son accession aux fonctions de responsabilité était moins le Coran et son interprétation, fut-elle dévoyée, que la persistance du patriarcat. Pour elle, c'était bien ça qui était le plafond de verre blindé.
Donc la question n'est pas, ne serait pas religieuse.
dans son esprit, elle n'était pas que religieuse. La religion servant, comme souvent d'ailleurs, par son instrumentalisation, à légitimer la perpétuation d'un ordre social, pour le coup, qui était celui du patriarcat.
Robert Solé, votre explication face à ce patinage, ce plafond
tout
se vert.
Tout se confond, effectivement, on ne peut pas, il y a une sorte de chape comme ça qui est à la fois religieuse, mais traditionnelle, politique, il y a tout ça qui joue, tout se mélange.
Est-ce qu'il n'y a
prenez
pas une sorte de consentement
extrême, prenez un cas extrême,
allez-y.
Qui est pas, qui n'a rien à voir avec l'islam, l'excision, c'est une chose terrible. Un pays comme l'Égypte est encore atteint. Bon, ça diminue heureusement, mais ça n'a rien de religieux. C'est une pratique nilotique.
Oui.
Mais les conservateurs religieux s'en sont emparés. Et on n'arrive plus à distinguer maintenant si c'est religieux ou pas religieux, si vous voulez. Et vous avez même des nomades qui se sont sédentarisés, qui ont adopté l'excision, alors que c'est même pas dans leur tradition à eux. Vous voyez, donc c'est très, très difficile.
On voit ça dans un bon nombre de pays africains également.
De lutter contre ce poids à la fois de la tradition, de la religion, de la politique, tout s'ajoute.
Vous avez des pays sahéliens, je pense au Mali, où vous avez, d'après les estimations les plus récentes, entre 80 et 90% des jeunes filles qui sont excisées. Et qui parfois le sont parce que leur mère, leur tante, exige d'elles qu'elles se conforment à la tradition. Et si vous voulez, dans la reproduction de cet avilissement, vous avez hélas un rôle de continuité qui est incarné non pas par les hommes seulement, mais par des femmes aussi.
Emmanuel Giuliani, quel regard vous portez sur ce débat que nous venons d'avoir entre hommes, si j'ose dire, mais qui est quand même assez inquiétant?
Je pense que le mot que Vincent Rougeux vient de prononcer, à savoir la reproduction, est un des problèmes fondamentaux pour le cas qui nous occupe aujourd'hui, mais pour toute la reproduction, on le sait bien, des violences, il n'y a pas une malédiction qu'un enfant battu devienne un parent violent, mais on sait hélas que souvent ces schémas sont reproduits. C'est ça, c'est que la grande force, c'est de donner un coup de pied au fond de la piscine pour remonter, et c'est de ne pas reproduire en effet un schéma qui vous-même à la fois vous a bien sûr opprimé, mais vous a aussi cadré, et de manière abominable, mais rassuré. De se dire pour une femme que de toute façon, de génération en génération, on est à la cuisine et on fait ce qu'on peut pour gouverner quand même la maison, mais on n'ira pas au-delà. C'est un avilissement profond, mais à la fois, ça vous définit votre rôle et ça évite de sortir de cette fameuse formule de sa zone de confort et c'est très très pervers ça, mais on voit ça dans énormément de domaines de la société. C'est vrai aussi pour les reproductions sociales, c'est vrai pour la difficulté de mariage mixte, que ce soit d'un point de vue social ou d'origine culturelle, ethnique, etc. Voilà, c'est ça. C'est notre côté humainement grégaire et enclin à reproduire des choses, même quand elles nous font du mal, qui doit être combattu. Et c'est vrai que les femmes là-dessus, parce qu'elles le subissent, peuvent être un ferment social, comme vous l'avez dit, lors
de révolution,
les printemps arabes, etc. Après, c'est institutionnaliser ça et le rendre opérant de manière politique. Ça, c'est une
Vincent
étape à franchir.
Un dernier mot, Vincent Lejeu.
Tout se passe, au fond, comme si on n'en finissait plus de décliner la formule latine que Anne Fulda rappelle dans le prologue de cet ouvrage. Tota mulier in utero, c'est-à-dire une femme est tout entière dans son utérus. Malgré les discours modernistes, il semble qu'il reste une persistance plus que rétinienne de ce postulat séculaire.
Qui va garder les enfants, avait-on dit, au moment où Ségolène Royal aspirait aux plus hautes fonctions. Voilà.
Les racines du présent, Frédéric Mounier.
Les racines du présent, nous évoquons aujourd'hui avec nos trois invités la question de la singularité des femmes dans l'exercice ou dans le non-exercice, on vient de le voir, du pouvoir. Et nous évoquons les leçons de l'histoire à partir d'un livre publié aux éditions Perrin qui s'intitule « Femmes d'État, l'art du pouvoir ». Nous sommes en studio avec Emmanuel Giuliani, journaliste au service culture de La Croix, et avec deux auteurs qui ont participé à ce livre, Robert Solé qui nous a parlé tout à l'heure de Cléopâtre et de Golda Meir, et puis Vincent Hugeux qui va nous parler maintenant d'une présidente que nous connaissons peu en France, qui est tout à fait méconnu, parce que le pays qu'elle a présidé était méconnu. Il s'agit du Liberia, il s'agit de Helen Johnson Sirleaf, qui a été prix Nobel de la paix en 2011, avec un parcours assez paradoxal, disons, Vincent Hugeux.
Oui, alors d'abord, un point commun, quitte à enjamber les siècles, entre Cléopâtre, dont Robert Solé parlait à l'instant, et Helen Johnson Sirleaf, l'une et l'autre ont d'une certaine manière hérité d'un champ de ruines. Le Liberia, c'est une utopie.
Et rappelez-nous l'histoire de ce
qui vire à la dystopie. Mm-hmm. C'est-à-dire, en gros, une utopie qui tourne allègre. Bon. L'idée de base, avec une société américaine, est de créer en Afrique un État, des États, qui seraient appelés à accueillir les esclaves affranchis. Pas seulement par bonté d'âme, hein, soyons clairs. C'était aussi la manière pour eux, de cette American Society, d'exfiltrer en quelque sorte des personnages qui, dès lors qu'ils n'avaient plus le joug sur l'esclavage comme fardeau, pourraient devenir des ferments de subversion dans les plantations de l'autre côté de l'Atlantique.
Donc toujours nous sommes à la fin du 19e siècle.
Absolument. On est dans cet idéal-là. Bon. Et donc c'est ainsi que vont naître, par exemple, le Liberia et la Sierra Leone. Bon.
Donc des esclaves affranchis refranchissent l'Atlantique dans l'autre sens.
Voilà, et sont censés créer sinon une société idéale, du moins quelque chose qui est de l'ordre quand même d'une utopie moderne.
Et ça s'est mal passé.
Ça se passe mal notamment parce que en fait l'alchimie entre ceux qui viennent des États-Unis et les natives, les locaux, ne se fait pas. Et donc vous aurez pendant des décennies et jusqu'à aujourd'hui, on en sent. La réalité, j'ai pu le mesurer lors de reportages dans ce pays, à Monrovia, on sent une tension sociale permanente. Et très souvent, très longtemps d'ailleurs, ce qu'on appelle les Congos, ceux qui viennent des États-Unis, ont trusté, confisqué les leviers du pouvoir. Et Helen Johnson Sirleaf, elle surgit dans cette scène étrange. Alors, elle passe par simplement la pâleur de son teint, par son parcours universitaire brillant. On la croit...
Aux États-Unis
Non, pas seulement.
Pas
aux États-Unis
oui.
Et dans des universités européennes et africaines. Mais c'est vrai qu'elle a très souvent traversé l'Atlantique. Hein. Sa vie est une sorte de longue navette en fonction de ses fortunes et infortunes politiques au pays. Mais voilà quelqu'un qui, en gros, semble cocher toutes les cases de l'américaine, entre guillemets. En réalité, elle est de souche en partie allemande. Bon. Donc en fait, elle va vivre intensément cette sorte de dichotomie identitaire entre l'une et l'autre. Elle le mesure, elle tente à plusieurs reprises d'accéder au pouvoir, elle vit des épisodes atroces, des coups d'État avec des moments de cruauté indescriptible.
Il faut rappeler que le pays était déchiré sous la coupe de Richard Taylor, de Samuel Doe, qui étaient des seigneurs de la guerre sanguinaire.
Tout à fait, elle connaît elle-même la prison. La menace sur sa vie. Et donc, elle réussit à surnager dans ce marigot infesté de crocodiles. Et après une vaine tentative, elle accède enfin à la présidence. Elle est la première femme présidente élue sur le continent africain. Bon, il y en a fort peu, mais en tout cas, première elle le restera. Mais jamais, au fond, elle ne peut se libérer de ses ambiguïtés. Et ce qui est très intéressant, c'est que quel est le facteur de son émancipation, je dirais, personnelle et presque intime? Elle épouse un jeune et sémillant agronome qui s'appelle Sirleaf. Alors, très étrangement, après son divorce, elle gardera ce double patronyme. Bon. Et il se trouve que cet homme, très vite, se révèle brutal, possessif, alcoolique. Elle en divorce à 23 ans, après que d'une part, il soit venu la gifler au ministère de l'économie où elle avait un bureau parce qu'elle rentrait trop tard à la maison. Et évidemment, ce qui sera la faute éliminatoire, c'est qu'à un moment donné, il semble qu'il ait braqué une arme sur son épouse en présence de leurs quatre enfants. Donc là, elle divorce à 23 ans. Vous imaginez ce que ça signifie.
Mais comment accède-t-elle au pouvoir?
Alors, elle accède au pouvoir parce que, d'abord, elle a une indéniable compétence. Et ça, c'est un facteur que je crois qu'il faut rappeler. Elle n'y accède pas par l'intrigue, elle n'y accède pas par la séduction, en devenant la maîtresse de je ne sais quel faiseur de roi libérien ou autre. Simplement, elle fait d'excellentes études, notamment en économie, même si elle commence sa carrière comme modeste comptable dans un garage, et elle s'impose par son savoir, tout simplement. Dans un pays naissant, non pas parce qu'il est tout jeune, on l'a dit tout à l'heure, mais tout simplement parce qu'il est d'une fragilité permanente.
Oui, c'est un pays totalement ruiné.
ruiné et par ailleurs qui est aussi sous la coupe de grands planteurs, hein, puisque en fait les multinationales de l'EVA, du caoutchouc, voilà, etc., se partagent en quelque sorte les dépouilles de ce pauvre Liberia. Et donc on a besoin de compétences.
Alors, est-ce qu'elle arrive à mieux faire qu'un homme ?
Eh ben voilà, c'est toute la question.
Ouais. Pas vraiment, si on vous lit.
À l'évidence, ouais, elle ne va jamais invoquer cette sorte d'immunité de genre, en disant, par nature, ouais, et par essence, puisque je suis femme, je saurais faire preuve de plus d'empathie, de plus de compassion, etc. Elle est parfois même assez brutale. Quand elle évince ses ministres, elle peut être très dure, elle peut interpeller ses subordonnés avec beaucoup de rudesse, de rugosité. Et puis, c'est aussi, et ça c'est un autre phénomène intéressant, un personnage qui va céder, une fois parvenu au pouvoir, par exemple aux sirènes du népotisme. On va voir surgir dans son environnement un gendre, un fils. Et puis, il y a un énorme scandale totalement méconnu en Occident au moment de Ebola.
Oui.
Vous savez, ce virus 250, ravageur, 250 j'étais allé à l'époque en reportage en Guinée, au Liberia. Elle a un fils qui est urgentiste aux États-Unis et qui refuse de rentrer, alors même qu'elle vire les fonctionnaires qui ne sont pas prêts à être en faction en permanence pour lutter contre ce fléau maléfique.
Elle protège son
et
fils.
Qu'elle demande alors, aux étrangers de venir épauler
expliquez-nous,
le
Vincent Hugues, le portrait que vous faites n'est pas vraiment élogieux. Pourquoi et comment a-t-elle obtenu le prix Nobel de la paix en 2011 ?
À mon sens, la bonne question serait pourquoi n'a-t-on pas encore écrit un essai sur les égarements du comité Nobel ?
Donc vous pensez que c'était une erreur ?
Non, alors là, ne soyons pas trop cruels. Oui. Ayant dit tout cela, il faut reconnaître qu'elle a quand même été suffisamment performante pour être réélue, y compris contre les caciques de sa propre mouvance politique. Donc elle était volontariste, elle a fait bouger les lignes, beaucoup moins qu'elle l'avait promis ou voulu, mais donc il ne s'agit pas du tout de dresser un bilan accablant. Je relève simplement les équivoques de la trajectoire. Pourquoi le prix Nobel ? Parce que là aussi, on est dans le stéréotype. La première femme présidente élue, qui est par ailleurs féministe, qui
est
extrêmement éloquente, absolument. Oui. Mais regardez, Barack Obama méritait-il vraiment le prix Nobel ? Il me semblait que le Nobel de la paix, notamment, était supposé couronner une réussite, un accomplissement, et non pas une promesse. Puis il y a pire, qui nous ramène sur le continent africain. Abiy Ahmed, le Premier ministre, donc le détenteur de la réalité du pouvoir exécutif en Éthiopie. Prix Nobel de la paix, voyez ce qui est advenu de ce pays
aujourd'hui en Éthiopie,
et
dont on
de
parle
la nature
très
de la répression de la province du Tigré.
D'accord. Donc on voit bien ce portrait en demi-teinte. Je me tourne pour terminer cette émission vers Emmanuel Giuliani. Vous avez dirigé le service culture de la Croix pendant longtemps. La place des femmes dans le domaine de la culture est une place parfois importante, parfois paradoxale. Quel regard avez-vous porté pendant toutes ces années sur cette question-là, Emmanuel Giuliani ?
Ça mériterait une émission à soi
seul.
Oui,
vous ferez un livre là-dessus.
Ce qui est vrai, c'est depuis quelques années, aussi bien pour ce qui est des artistes, des créatrices, que pour ce qui est des interprètes ou des passeuses de la création, il y a une prise de conscience, alors que d'aucuns jugent tardive et puis focalisé qu'on peut dire trop c'est trop, mais en tous les cas une prise de conscience sur le fait que notamment dans le domaine de la musique classique et plus particulièrement le mien, on n'a jamais eu autant de concerts révélant des œuvres de compositrices injustement souvent oubliées, alors parfois avec des excès en disant vous connaissez Bach, Mozart et Beethoven, mais finalement rien ne vaut Fanny Mendelssohn et Clara Schumann, c'est pas aussi simple, mais en tous les cas ça permet de montrer quelle était la condition de ces compositrices qui, en gros, après il y a beaucoup d'exceptions, mais pouvaient l'être très tranquillement dans l'univers privé, avaient plus de difficultés pour se faire éditer, jouer dans la sphère publique. Et ça, c'est une bonne chose. Et de la même manière, sous la forme institutionnalisée d'un concours de chef d'orchestre qui s'appelle la Maestra, et dont la deuxième édition a eu lieu ce printemps, le rôle des femmes, par exemple, à la tête d'un orchestre, est soulevé depuis quelques années. années et on se dit c'est des combats d'arrière-garde, mais pas du tout. Parce que si on prend la liste des grands maestros du passé, de femmes, on n'en voit point, ou à peine. Alors, donc c'est vrai qu'il y a une prise de conscience. C'est en train de changer. Et comme me disait je ne sais plus qui, ça aura totalement changé quand une mauvaise musicienne pourra faire carrière.
Françoise Zéro.
Voilà, c'est ça exactement. donc pour reprendre cette phrase-là. Mais en tous les cas, et c'est quand même une prise de conscience. D'abord qui fait découvrir des continents de la culture qu'on ne connaissait pas, et ça on ne s'en plaint jamais, et puis qui fait réfléchir en effet, même dans ces domaines que l'on a tendance à considérer comme hyper féminins, puisqu'il s'agit d'art, d'émotion, de culture, bah là aussi, les places parfois sont chèrement acquises. Donc je pense que c'est une réflexion qui en tous les cas est stimulante.
En un mot, là, on arrive au terme de cette émission. Il ne reste plus qu'une petite poignée de minutes. Me vient à l'esprit, en vous écoutant, l'importance du mouvement MeToo. Est-ce qu'il est temps aujourd'hui de faire un premier bilan de ce mouvement, en particulier dans le domaine culturel, Emmanuel Giuliani?
Je pense qu'on n'en est qu'au début. Oui. Voilà, ça, là aussi, ça a été une prise de conscience. Alors évidemment, avec tous les travers que peut avoir le fait de jeter sur la place publique avant que la justice ne passe, et on a bien vu qu'il pouvait y avoir également des dégâts, il n'empêche que tout, et là je pense que personne ne peut contester ça, tout ce qui va dans le sens d'un traitement équitable, égalitaire, et surtout ne pas jouer du pouvoir que l'on peut avoir sur le corps des femmes, ça, évidemment, on ne peut que s'en féliciter. Et le chemin est encore long.
Est encore long. Vincent Hugeux, deux mots sur MeToo.
Oui, alors je pense que ce mouvement, y compris dans ses outrances, est historiquement inévitable et sain. En revanche, ça, c'est ce qui affleure à la surface. Moi, je regarde ce qui reste dans les profondeurs. Et une petite anecdote personnelle. Lorsque j'étais au Rwanda pendant le génocide en 1994, j'ai étudié, j'irais jusqu'à la nausée, la vulgate du Hutu Power, donc des génocidaires. Et vous aviez en permanence le retour du mythe de la femme Tutsi, envoûtante et vénéneuse, qui, aux yeux de l'homme Hutu, était à la fois une cible et un trophée. En épousant une Tutsi, je m'élevais socialement, comme quand j'étais moi paysan, propriétaire de 3 têtes de bétail. Et donc, si vous voulez, il y a tous ces mouvements qui sont vitaux, mais il reste, encore une fois, et je reviens au primat de la psychanalyse sur la science politique, il reste, je crois, dans nos sociétés, ça n'est pas propre au Rwanda, évidemment, cette idée que la femme, on évoquait Cléopâtre et l'envoûtement qu'elle a exercé sur... César et Antoine, restent suspectes par nature.
En deux mots, Robert Solé, MeToo dans le monde arabe, au Moyen-Orient, il peut se passer quelque chose? Il se passe quelque chose?
Il se passe. Les choses évoluent, mais là aussi, c'est très lent. Très lent. Il y a eu, juste après le printemps arabe, des scènes absolument scandaleuses qu'on a appelées harcèlement, qui étaient en fait souvent des viols collectifs dans ces grandes assemblées, ces grands mouvements. Donc il y a encore beaucoup à faire, mais ça avance.
Bien, merci pour ce dernier mot d'espérance. Merci à vous trois. Je rappelle le titre du livre qui nous a réunis aujourd'hui, Femmes d'État, l'art du pouvoir. C'est chez Perrin, c'est publié sous la direction de Anne Fulda. Nous étions en compagnie de Vincent Hugeux qui publie un chapitre sur la présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, que nous avons évoqué. Robert Solé a parlé avec nous de Cléopâtre et de Golda Meir. Et puis nous étions en compagnie de Emmanuel Giuliani du service culture de la Croix. Évidemment, nous n'avons pas parlé ici de la place des femmes dans l'Église. Je rassure nos auditeurs, nous en parlons régulièrement sur l'antenne de RCF et nous consacrerons,
évidemment,
voilà, la question est ouverte, et nous y consacrerons évidemment une ou plusieurs émissions des Racines du Présent. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité, un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur le site de RCF, et vous pouvez évidemment nous écouter en podcast, en balado-diffusion ad libitum. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.